Je vous rappelle ce que nous avons vu, qui était en fait une simple introduction, une préparation. Donc d'abord, on a essayé de vous faire rappeler l'ambiance profondément biblique et naturelle dans laquelle vivait le maître de moulin. C'est un homme de la parole de Dieu. Jean-Marie et Élie, c'est bon à parler ce matin. Ça m'a frappé parce que je dis, tiens, ce n'est pas un idéologue, c'est un homme qui transmet ce qu'il voit, ce qu'il a reçu. Il n'interprète pas, il reçoit les informations qu'il comprend et qu'il redonne, c'est tout. Il ne cherche pas à avoir une idée. Il délivre le message qu'il reçoit lui-même, c'est un contemplatif. Et donc cet homme a cette culture qui est encore très marquée par la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et le retable, c'est un lieu saint. Le lieu qui permet aux personnes qui assistent à la messe, à l'époque, de participer à la messe. Parce que le prêtre, je vous l'expliquais, donc dit au peuple, dans cette liturgie-là, qui n'est pas celle de 30, je rappelle encore, et il parle lentement, à mi-voix. On ne l'entend pas. Quand c'est la grand-messe, il y a des gens qui chantent, hein, qui riaient, tout ce que vous voulez. Mais quand ce n'est pas la grand-messe, il n'y a pas grand-chose qui est entendu. Donc on occupe les gens visuellement, et le retable sert à cela. Le retable en Occident tient le rôle de l'icône en Orient, mais en plus fort. Parce qu'en iconostase, on avait 150 icônes, si vous voulez. Alors que le retable, c'est quelques panneaux maximum. C'est pas la même chose. Donc l'empreinte doit être beaucoup plus forte. Il se trouve qu'en fait, très rapidement, à partir de la Renaissance, les retables vont devenir simplement des instruments de décoration. Quelquefois avec des motifs assez lamentables, malheureusement. Mais le triptyque du maître de Boulin est encore un dernier grand retable dont le sens est profondément spirituel. Dire aide à la prière, point. Donc ce que j'ai voulu vous dire en premier. Ensuite que le maître de Boulin a d'abord utilisé des symboles très classiques. Il prend Apocalypse 12. Alors, la collégiale de Moulin que les Bourbons faisaient construire à l'époque était dédiée à la Vierge Marie. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Les Bourbons étaient d'une école théologique, parce qu'on l'était aussi à l'époque, il n'y avait pas les traditionnellement, il y avait des gens qui avaient des écoles théologiques. Et les Bourbons pensaient que Marie était l'Immaculée Conception. L'Église ne l'avait pas encore dit officiellement, c'est en 1858 qu'elle va le dire simplement. Donc plus de trois siècles avant, on pouvait discuter. Et certains disaient non, d'autres disaient oui. Les Bourbons sont pour, à 100%. Et donc le dialogue qu'il y a entre eux, et le maître de Moulin est aussi un dialogue à ce propos. Alors je ne vous en parlerai pas parce que ce serait très long à expliquer, mais le maître de Moulin est profondément d'accord avec eux, on le sent, et il va mettre dans son triptyque des symboles que je n'ai pas assez expliqués, mais que je vais expliquer maintenant, qui montrent que Marie est l'Immaculée Conception. Voilà. Le maître de Moulin prend des symboles très simples. Le soleil, c'est classique, Apocalypse 12. Le soleil, c'est la présence de Dieu, Père, puissance génératrice qui donne la vie. L'enfant Jésus dans les bras, bon, pas de problème. Et ça, on l'a vu. Donc le soleil va servir de plusieurs symboles à la fois. Donc le soleil en tant que présence de Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le bouclier, la protection. On a gardé dans toutes les langues occidentales la parole « Amen » qui vient de l'hébreu, hein, et de l'araméen d'ailleurs aussi, qui a un verbe qui veut dire soutenir, s'appuyer. C'est un sens ou l'autre. Donc Dieu nous soutient, c'est-à-dire que nous, on peut s'appuyer sur lui. Voilà. Amen, ça veut dire c'est solide, je m'appuie, je peux m'appuyer, c'est solide. Voilà. Et donc ça, on l'a vu. Et puis, on n'a pas tellement avancé au-delà de ça, finalement. Mais c'était vraiment une introduction. Aujourd'hui, on va entrer dans des symboles que le maître de Moulin a repris d'autres, puis il va en inventer d'autres encore. Mais alors, vous allez voir, ce n'est pas difficile à les comprendre, parce que les symboles que le maître du Moulin utilise sont des symboles naturels, qu'on a tous dans le cœur et dans la tête, qu'on soit d'Afrique du Sud ou du Groenland, de Chine ou d'Amérique ou d'Europe, ces symboles-là sont des symboles compréhensibles. Et donc, devant le maître du Moulin, quelqu'un qui prie simplement et qui médite va comprendre intuitivement ce que le maître du Moulin veut dire. Ce qui ne va pas dire qu'il va l'analyser, il va le comprendre. Je me souviens d'un critique de peinture, je crois que je le cite là un petit peu. Plutôt, ce n'est pas un critique de peinture, c'est un homme dont le métier est d'estimer la valeur des peintures. Vous voyez ? Donc il éclaire les gens qui veulent acheter des peintures, et cette peinture-là, ce tableau-là, c'est tel prix, ne dépassez pas ce prix-là. C'est un homme qui s'appelle René Millet, qui est un type très sympathique, pas spécialement chrétien.